Il y a des références qu'on doit connaître par cœur. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est une parole toute simple pour nous rappeler notre fondement, mais cette parole que nous avons reçue dans nos cœurs venant de Dieu. Et j'ai pensé donc à ce verset par rapport à cette exposition. Nous sommes entourés aujourd'hui par la parole de Dieu ou le témoignage rendu à la parole de Dieu. Mais c'est voilà, nous sommes entourés. Et puis il y a les versions de l'écriture, donc la parole de Dieu elle-même, qui est donc exposée sur l'étable. Mais toute cette exposition, elle est dans le but de sensibiliser, alors elle nous édifie nous-mêmes, elle nous donne des éléments donc concernant l'authenticité, la véracité de la parole. Elle permet à des personnes en particulier qui ne connaissent pas du tout, qui ont des fausses idées ou des a priori, qui sont ignorants de la parole de Dieu, eh bien, d'en avoir une première approche pour au moins qu'ils se rendent compte que eh bien, la Bible est un livre qui est digne d'intérêt, déjà, rien que pour cela. Mais pour nous, ça va beaucoup plus loin, puisque nous avons reçu la Bible comme étant la parole de Dieu, la parole de vérité qui nous a visité intérieurement. Et nous l'approchons déjà par l'intérieur. Donc, ces éléments extérieurs, finalement, ils sont déjà presque inutiles pour nous parce que nous en avons découvert le secret. Lorsque l'apôtre Paul parlait du Seigneur Jésus-Christ lui-même, il disait « Nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Si nous l'avons connu de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus selon la chair. » Nous le connaissons par l'esprit, selon l'esprit. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Et donc la parole de Dieu, maintenant, nous l'avons reçue par l'esprit. Et elle, on peut dire, nous ne la décortiquons pas en différentes sections. Nous sommes, lorsque nous ouvrons la Bible, nous savons que nous sommes devant la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas là à en tirer, on peut dire, des concepts, des façons de concevoir le monde, etc. Nous croyons et nous recevons Dieu lui-même à travers cette parole vivante, cette parole reçue par l'Esprit. Et là, lorsque nous entendons le Seigneur dire « Je leur ai donné tes paroles ». Lorsqu'il est venu dans ce monde, le Seigneur Jésus est venu avec les paroles de Dieu. Et il nous a donné les paroles de Dieu. Et si nous recevons donc les paroles de Dieu, eh bien nous sommes vivifiés, nous sommes sanctifiés par la vérité. Nous sommes éclairés, nous sommes délivrés, nous sommes purifiés. Tout cela par cette parole qui est contenue dans la Bible. Parole vivante, reçue comme parole vivante, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à pénétrer donc l'âme. Hein, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12, la citation exacte, je vais donc la prendre. Parce que cette parole nous a rejoints dans notre être intérieur. Parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. En recevant la parole de Dieu, la Bible, eh bien, nous sommes devant Dieu et nous commençons à devoir lui rendre compte. Et il nous pénètre par cette parole, il nous éclaire, il nous montre ce que nous sommes devant lui et ce que lui veut mettre comme vérité, comme vie et comme image en nous. Donc nous avons reçu la parole de Dieu et nous la recevons avec une implication, un changement de vie, exactement comme cela s'est produit dans la vie de tous ceux dont elle parle, dont elle rencontre de l'histoire, du témoignage. À chaque fois qu'ils ont reçu la parole de Dieu et qu'ils ont eu foi en la parole de Dieu, qu'est-ce que ça a fait? Ça a changé leur vie. Ça les a engagés dans un chemin qu'ils ne s'attendaient pas, ils ont avancé comme ça, vraiment en partant comme Abraham, d'un lieu pour aller dans un autre, d'un état pour aller dans un autre, d'une situation pour aller dans une autre. La parole de Dieu change la vie et de ce fait-là, elle a changé l'histoire. Ce que j'ai relevé dès l'inauguration de cette exposition, c'est que la caractéristique de la Bible, de l'Écriture, c'est d'être bien sûr une parole spirituelle, mais c'est une parole inscrite dans l'histoire. Elle est mêlée à l'histoire. Et c'est là qu'on voit qu'elle peut avoir un impact dans notre vie, dans notre propre histoire, parce qu'elle a vraiment changé la face du monde. À partir du moment où Abraham a entendu cette parole et qu'il y a cru et qu'il y a répondu, eh bien, non seulement ça fait un double effet. D'une part, ça a créé une nation. Alors avec l'expérimentation de la foi d'Abraham n'était pas parfaite immédiatement. Si, elle était parfaite dans le sens que quand Dieu lui a dit « quitte ton pays pour aller vers le pays que je te montrerai », il l'a fait. Il a cru et il a engagé donc sa vie. Mais ensuite, eh bien, je ferai de toi une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham n'avait pas de fils. Et là, il a dû avancer un pas à la fois. Et dans cette foi qu'il avait dans le Seigneur, il a cherché la réalisation de la promesse, mais il l'a cherché quand même d'une certaine manière en tâtonnant jusqu'à ce que Dieu finalement fasse son œuvre à lui à travers lui et Sarah. Mais voilà, ça a constitué d'abord un fils qui a été donné à Dieu, de sorte que sa postérité pouvait vraiment appartenir à Dieu, Isaac, et puis à travers ce fils, un autre fils et un peuple, et ce peuple-là, eh bien, il est entré dans l'histoire, parce qu'il n'a pas seulement cru en un Dieu, mais il a aussi fait la guerre, il a aussi conquis une terre. Et donc toute l'histoire, l'enseignement spirituel passe aussi à travers l'histoire terrestre d'Israël et la conquête du pays de Canaan et le maintien de la possession de Canaan à travers des ennemis, etc. Alors, bien sûr, on en fait le parallèle spirituel, mais la guerre réelle, la guerre humaine, elle a bien eu lieu aussi, hein. Et à un moment donné, eh bien, on a cru, parce que le Seigneur Jésus était venu, parce qu'il avait donné sa vie pour nous, que tout était accompli, et que donc l'histoire d'Israël en tant que peuple n'avait plus besoin d'être. Et à ce moment-là, donc, Israël justement a été dispersé parmi les nations, et il n'est resté que le message spirituel, à travers l'Église, la prédication de l'Évangile, et l'Église n'a pris aucune possession humaine, du moins lorsqu'elle fonctionne vraiment dans l'obéissance et dans la parole de Dieu. Elle prêche simplement la bonne nouvelle, elle annonce la conversion, la repentance envers Dieu, la foi, la vie de piété, l'obéissance, donc les œuvres dignes de la repentance, tout ça pour la vie personnelle, mais elle constitue quand même une entité à part dans le monde. Donc elle a une histoire aussi, l'Église de Jésus-Christ. Elle a aussi une histoire et voilà, elle s'est développée dans le monde entier, hein, et parfois, justement, elle a rejoint l'histoire d'une mauvaise façon, c'est-à-dire d'une façon humaine, hein, de la même façon qu'Abraham avait parfois, donc au début, commis des erreurs par la chair. Eh bien, l'Église aussi a commis des erreurs par la chair, par une approche, on peut dire, charnelle. Mais à travers cela, Dieu poursuit son œuvre. Dieu continue d'annoncer la bonne nouvelle et de préparer son royaume dans le monde entier. Et vraiment, je vous invite cet après-midi à être là donc pour les projections concernant la réception du Nouveau Testament, de la parole de Dieu dans certaines tribus. On pourrait en trouver d'autres vidéos, mais là, on en a trois en fait, hein, pour se limiter. Mais c'est extraordinaire comment la parole de Dieu est accueillie avec joie, dans la fête, donc parce que ces tribus découvrent la bonne nouvelle et la parole de Dieu pour eux-mêmes dans leur langue. Et cela, ça, c'est donc une approche totalement positive, alors qu'on peut reprocher dans l'histoire que parfois, voilà, les missions se soient faites associées à des conquêtes humaines, etc., des conquêtes de territoire. Mais là, ce n'est pas du tout cette approche-là, c'est vraiment la parole de Dieu qui est reçue et qui transforme la vie d'une tribu. Parce que tout simplement, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et là, il n'est plus question d'acculturation, d'imposer des façons de vivre. Vous allez voir, ces tribus, ils font la fête avec leurs accoutrements à eux, avec leurs danses à eux. Mais voilà, ils reçoivent la parole de Dieu, et c'est ça qui compte, parce que c'est cette parole qui va agir. Donc, malgré toutes les erreurs, on peut dire, de la chair, la bonne nouvelle s'est répandue et continue de se répandre, et à travers cela, le royaume de Dieu d'être préparé par les âmes qui sont sanctifiées, qui sont délivrées et qui viennent à la vérité. Donc ces témoins, ils ont eu leur vie transformée et ils ont impacté la vie du monde, mais à travers aussi des souffrances, à travers des ennemis qu'ils avaient. Et si Israël avait des tribus et des nations ennemies, les apôtres, eux, avaient des opposants. Et tous ceux qui ont prêché la parole de Dieu ont rencontré vraiment des résistances dans ce monde et donc ont eu leur vie humaine, leur vie physique, leur vie sociale, etc., menacée. Mais ils ont continué et c'est ainsi que de grandes transformations ont pu avoir lieu, donc à travers la réception de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons donc dans nos cœurs quelque chose de beaucoup plus grand que, on peut dire, les analyses rationnelles, intellectuelles que nous avons ici autour de nous, qui sont valables en elles-mêmes, mais nous avons le témoignage de ceux qui ont eu la foi et qui engagent notre propre vie dans la même direction. Abraham, avant, bien entendu, Abel, Enoch, Noé, c'est leur vie qui a été donc impactée par la parole de Dieu. Hein. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué aussi, attention, on oublie assez souvent, mais après Moïse, il y a eu Josué qui était un homme totalement consacré à Dieu. Et puis David, hein, et Salomon, et les prophètes, eh bien, ce sont eux tous qui sont, comme l'apôtre le dit, une grande nuée de témoins qui nous environnent. Et donc, en conséquence, nous aussi, Hébreux chapitre 12, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc la parole nous engage. La parole, à cause de Jésus-Christ lui-même, mais aussi à cause de tous ceux qui, recevant son témoignage par avance, les prophètes, sont entrés dans la carrière. Et nous aussi, si nous recevons la parole de Dieu, c'est pour entrer dans la carrière, courir avec persévérance vers le but qui est le royaume de Dieu. Donc cette parole, vraiment, je voulais insister là-dessus, c'est d'abord, une parole que nous recevons, on peut dire, en bloc. Voilà, nous ouvrons n'importe quel passage de la parole de Dieu, n'importe quel livre de la Bible, nous y trouvons la révélation de Dieu pour nous. Donc c'est un tout, elle est reçue dans son entier et elle engage notre vie. Et donc le Seigneur, par Jean-Baptiste d'abord, et puis lui-même, a bien demandé à tous ceux qui croyaient de s'engager dans la repentance. Repentez-vous, changez de pensée, changez d'attitude. Il y a toute cette réflexion sur que signifie exactement donc se repentir. Hein, repentez-vous, convertissez-vous. C'est les deux aspects. Et dans la repentance, il y a cet aspect de, ça c'est métanoïa, c'est-à-dire de changer notre mentalité, de changer nos pensées, de ne plus penser de la même façon, de ne plus penser humainement, mais de penser selon Dieu, en fait. Recevoir la pensée de Dieu et se convertir, à partir de ce moment-là, c'est faire demi-tour, hein, par rapport à la voie que nous allions. Nous étions, comme Paul le dit aux Thessaloniciens, vous êtes détournés des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai, et l'attendre des cieux son Fils. Voilà la conversion, c'est se détourner de notre vie marquée par le péché et l'idolâtrie pour se tourner vers le Dieu vivant. Mais pour pouvoir faire cela, il faut d'abord avoir été changé dans notre compréhension, dans notre intelligence, dans notre approche de la vie. Et vraiment, il faut que la parole de Dieu pénètre vraiment nos cœurs et nos pensées pour nous dire, mais oui, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là, et que ça n'a aucune valeur, ça mène nulle part, ça mène à la mort, tout ce que je suis en train de vivre et de faire. Hein, tu auras beau te donner tous les plaisirs, toutes les satisfactions, le chemin final, c'est la mort pour le celui qui ne connaît pas le Seigneur. Eh bien, à un moment donné, il faut vraiment l'avoir intégré totalement, cette pensée, que si je continue à vivre selon mes propres pensées, je me perds. Et donc, je reçois les pensées de Dieu, et je me tourne vers lui, et je me convertis, et j'engage ma vie totalement pour non plus vivre de moi-même, mais vivre de Jésus-Christ. Et c'est là qu'intervient le baptême, un acte d'obéissance pour bien signifier que ma vie n'est plus votre vie, donc n'est plus marquée par, on peut dire, la recherche de vous-même, mais la recherche de Dieu en Jésus-Christ. Et là, vous êtes sur la voie du salut. La foi, l'obéissance. Et c'est là que le monde change, véritablement. Si les chrétiens n'étaient que des gens, on peut dire, spirituels, intellectuels, qui ont des idées, des convictions, qui adhèrent à certaines valeurs, ça ne changerait pas le monde. Ce qui change le monde, c'est lorsqu'ils engagent leur vie dans l'obéissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi j'avais marqué cela, mais j'avais une petite référence par rapport à tout ce qu'on peut trouver actuellement comme moyen de développement personnel, d'accomplissement de soi, etc. En recevant la parole de Dieu, nous n'avons rien besoin d'autre que de cette parole reçue par l'Esprit pour instruire nos vies et nous donner de la satisfaction intérieure, nous donner du bonheur, de la paix et nous engager sur un chemin de développement. Le développement personnel, aujourd'hui, il a été pendant plusieurs décennies recherché au moyen de la psychologie. Alors, beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, ont affaire à des psys pour résoudre leurs problèmes et trouver une façon d'être en paix, de s'accomplir dans la vie, etc. Hein? Ils se fondent sur donc cette connaissance de l'âme humaine par la science psychologique. Mais cela, nous l'avons lorsque nous laissons justement instruire, pénétrer par le Seigneur, recevoir ses commandements et les mettre en pratique, eh bien, bien des choses qui étaient, on peut dire, qui peuvent être bloquées en nous, se libèrent. Mais maintenant, il y a une autre approche qui est en train de s'imposer, de revenir de très, très fort. C'est pas l'approche des psys, mais l'approche des spies. C'est, de plus en plus maintenant, les gens ont affaire à des voies spirituelles, recherchent des voies spirituelles. Et ils se sont, dans un sens, un peu aperçus que la psychologie, elle était limitée et elle ne répondait pas à tous leurs besoins. Et alors maintenant, ils cherchent du côté des... certains, on peut dire, maîtres à penser, certaines techniques, etc., qui sont censées être dans un développement spirituel, quelque chose qui dépasse l'âme humaine, qui les met en relation avec le divin, quelque chose de plus grand qu'eux. Et il y a toutes sortes de littérature maintenant, qui sont en train de fleurir et de, non seulement de littérature, mais de personnes, de groupements qui vont dans ce sens-là. Et j'étais étonné j'étais pas étonné, en fait. Mais je revoyais à nouveau cette semaine un court reportage sur le développement du yoga dans le monde. Et c'est absolument extraordinaire comment cette technique de méditation est en train de s'imposer. Donc, mais Alors, on peut dire, oui, c'est seulement de la technique physique pour être bien, libérer ses énergies, enfin, etc. Mais ce n'est vraiment pas que cela. Quand on voit les postures que prennent les personnes et cette façon d'avoir les mains jointes en regardant en l'air, qu'est-ce qu'ils sont en train d'attendre ? Réellement, et d'ailleurs c'est dit, même dans le commentaire, ils sont en train d'attendre une communication avec le divin. Ils sont en train de rechercher le divin à travers donc cette façon de cette approche donc technique, etc. Eh bien, voilà, nous ne faisons pas ces choses-là. Nous nous mettons en prière, nous nous mettons en méditation de la parole de Dieu, nous nous mettons en communion avec Dieu à travers sa parole, et nous nous apprêtons à lui obéir. Et ça, c'est une dimension qui n'est nulle part ailleurs, qui n'est pas dans la psychologie, qui n'est pas dans la spiritualité type orientale. La parole de Dieu, elle a ce caractère de nous demander l'obéissance, une mise en pratique. À partir de ce moment-là, c'est plus nous qui décidons de notre vie. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, ce n'est plus nous qui décidons de notre vie, c'est Dieu. Nous devenons des enfants obéissants à Dieu. Nous faisons ce que le Seigneur nous demande et nous nous mettons ensemble à son service. Et donc aussi nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà, ce n'est plus chacun pour soi-même. Ce n'est plus chacun qui cherche son propre intérêt, qui cherche son propre développement. C'est tous ensemble qui cherchons ce que Dieu veut faire, nous demande, veut réaliser en nous et à travers nous. Donc il y a un aspect vraiment aussi de vie communautaire, donc dans l'amour de la parole de Dieu, une vie communautaire basée sur l'obéissance. Et c'est pourquoi l'Église, dès le départ, est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église transmet la vérité, transmet l'obéissance au Seigneur, et on a beau être moderne, les clés de l'obéissance sont toujours les mêmes. Et voilà, entrer dans cette relation d'obéissance avec Dieu, hein, ça implique de mettre sa vie en règle avec lui, ça implique de demander pardon, ça implique de rechercher son pardon, ça implique de marcher dans l'honnêteté, dans la pureté, ainsi de suite, tout ce qui est dans les secondes parties de l'être de l'apôtre Paul en particulier, hein, il commence par développer vraiment ce qu'est la doctrine de Christ, et puis après il en vient aux applications concrètes, hein. Éphésiens, quand même au chapitre 4, c'est là que ça nous amène, l'unité de la foi, hein. Et ensuite, eh bien, c'est pourquoi je le déclare, verset 17, hein, dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et cela continue, bien sûr. Donc là, nous entrons vraiment dans une obéissance qui impacte réellement le monde, parce que le monde est marqué par la corruption, le monde est marqué par la convoitise, le monde est marqué par toutes sortes de trafics et d'infidélités des gens envers les autres. Et lorsque des chrétiens vivent vraiment l'honnêteté au milieu de ce monde, eh bien forcément, ça change des choses dans la vie sociale, dans la vie des entreprises, etc., etc. Donc ça impacte réellement le monde. Donc voilà l'effet de la parole de Dieu, la doctrine de la foi et de la piété. Et c'est ce que vraiment je désire que nous continuions à vivre tous ensemble sur la base de la repentance, la foi en Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et l'attente vraiment de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Parce que nous avons réellement besoin que le Saint-Esprit vienne, nous donne la paix, nous donne la compréhension, nous donne la force et nous permette ainsi de continuer à maintenir le véritable témoignage. Demandons l'action du Saint-Esprit aussi au milieu de nous. Amen.